Ce balado parle du Québec, des régions et plus particulièrement de chez nous, la Côte-Nord. Ici, on interpelle ceux qui habitent et qui s'activent. On aborde ensemble enjeux, actions et pistes de solutions. Je suis partie à la rencontre de ces citoyens engagés dans leur entourage, pour leur communauté. Ces gens inspirants qui font de notre région ce qu'elle est aujourd'hui. À vous tous, merci. Je m'appelle Émilie, vous écoutez La Voix des Régions. Dans cet épisode, on t'invite à te plonger avec nous dans un enjeu plus qu'omniprésent, la culture. Avec Eric, on parle de la nuance entre art et culture, de démocratie et citoyenneté culturelle, de ses bienfaits sur les citoyens de tout âge et de l'expression de chacun. Parce que la culture nous concerne tous. Bonjour Eric, on est le 4 décembre 2020. Tu es agent de développement pédago-culturel pour Culture Côte-Nord.
Un long titre, hein ?
Un long titre, pas mal un long titre. Merci d'être là.
Plaisir.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, si je te dis la voix des régions, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Ça m'évoque me donner une place aux régions, les faire rayonner, leur donner droit au chapitre, qu'on les entende, donner la parole à des gens qui viennent des régions, promouvoir les régions.
Afin de te connaître un petit peu plus, est-ce que tu peux nous parler de ton histoire à toi? D'où est-ce que tu viens et c'est quoi un peu le chemin que tu as parcouru?
Moi, je viens de Saint-Marc-la-Tour. Même pour les Nord-Côtiers, des fois Saint-Marc-la-Tour, on le connaît pas, juste à côté de Colombier. Entre Forestville et Colombier, c'est la pancarte de la FADOC. C'est ça que souvent les gens voient sur le bord de la route. Donc, un petit village. Moi, quand j'étais là, c'est 250 habitants. Donc, toute ma jeunesse là-bas, belle jeunesse à jouer dans les rivières, dans les lacs. Et à 17 ans, comme plusieurs d'entre nous sur la Côte-Nord, parti pour les études. Donc, Chicoutimi. Histoire et civilisation au cégep, université par la suite en sociologie. Et c'est là que j'ai vraiment accroché sur tout ce qui est culture. Et moi, c'est vraiment au point de vue sociologique et anthropologique. Donc, plein d'implications par la suite en politique. Ce qui m'a apporté à Montréal aussi par la suite, mais de faire une maîtrise en sociologie. Et en même temps, j'ai développé toute une carrière artistique, en musique, tout ce qui est musique électronique, art numérique. Et en vrai, tout ça a commencé par un stage en anthropologie que j'avais à Chicoutimi. Donc au lieu moi, de faire un stage dans un CLSC ou je sais pas trop où, mais moi je veux faire de la recherche dans le futur, on m'a dit, mais quel terrain je pourrais prendre? Puis c'est un professeur qui m'a dit, ah, il me semble qu'en Europe, il y a des chercheurs en ce moment qui s'attardent aux mouvements électroniques, aux raves qu'on appelait avant, donc dans toute une perspective, déplacement de la spiritualité, nouvelle spiritualité. Donc on m'a envoyé sur le terrain, donc, comme un anthropologue, donc parfait, je suis parti là. Et comme on dit dans le milieu, bien, je me suis fait prendre par mon terrain, j'ai adoré ce milieu-là. Nous, c'était spécifiquement sur le déplacement du sacré, donc toutes les nouvelles spiritualités qui se forment dans certains événements, donc jusqu'à découvrir des événements qui mélangeaient célébration et bien-être, donc oui, musique, fête, tout un côté bien-être aussi, thérapie, conférences, des ateliers, des formes de ritualité aussi, donc tout un accès au sens, une poésie de l'existence qui était là-dedans aussi. Donc, je suis devenu promoteur d'événements, directeur général de l'organisation aussi, de l'organisation Open Mind Festival. Et je suis devenu aussi DJ par la bande. Donc, et depuis 10 ans, je fais ça aussi. Plein de choses en art. Donc, personnellement aussi, plein de projets en médiation culturelle, tout particulièrement dans les Laurentides avec les Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, des projets de médiation culturelle, c'est-à-dire que comment l'intervention peut se nourrir d'approches créatives pour intervenir auprès de publics souvent plus cibles. Projet de photographie avec des jeunes sur des thématiques diverses, dont un qu'on a fait sur l'image de la femme. Donc c'était quatre femmes, quatre jeunes femmes qui prenaient le médium de la photographie pour s'exprimer sur l'image féminine contemporaine. Donc plein de choses du genre, je me suis vraiment éclaté raide là-dedans aussi. Et jusqu'à très dernièrement, je me disais, bon, mais OK, là, il faut que je revienne par chez moi, mes racines me manquaient. Donc, me revoilà sur la Côte-Nord depuis maintenant un an pour l'organisation Culture Côte-Nord, justement sur le projet pédago-culturel, comme tu parlais, effectivement.
Super. Donc, en fait, toi, t'es parti finalement combien de temps de ta région?
Je suis parti à 17 ans et là j'ai 34. Donc, on fait le calcul. 17 ans quasiment.
T'es revenu dans ta région natale.
Ouais.
Et qu'est-ce que cette région-là a de plus que les autres?
Pas de plus, hein?
Ouais.
C'est sûr que c'est la famille pour moi. Toute ma famille est ici, l'ensemble de ma famille. Et aussi, ben, toute la grandeur du fleuve. Moi, j'étais en amour avec le fleuve. Je fais du surf, je fais de l'apnée, je fais du paddleboard. Donc, c'est un truc qui m'appelle depuis longtemps. Et en vrai, moi, c'est les îles de la Madeleine qui m'apportent ici. Moi. Ça faisait 4 ans en ligne que j'allais aux îles de la Madeleine l'été. Puis ça m'a tellement rappelé mon chez-moi. Donc, puis à chaque fois, ça me rappelait ma famille. Je sais pas pourquoi j'étais là-bas, mais ça me ramenait ici. Donc, puis tout le fleuve que j'ai joué dedans, à côté, là-bas. Donc, j'ai dit, bon, parfait. Donc, c'est soit je partais aux îles, ou soit je revenais sur la Côte-Nord. Et le choix était plus ici, avec la famille. Et, c'est ça.
Donc ouais. Là, t'es arrivé il y a un an. Ouais. Ça a peut-être pas été simple. T'es arrivé, puis dans le fond, pas longtemps après, le Covid est parti. Mmh. Donc, ça a peut-être pas été un retour au pays comme tu l'espérais?
Particulier, effectivement. J'étais arrivé en novembre. J'étais arrivé, j'étais super excité. J'étais arrivé dans un appartement. C'est la première fois que j'étais en appartement. La soirée que j'étais arrivé, je me suis mis à brailler. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là? C'est-tu un bon choix? Je quittais une maison de rêve pour moi dans les Laurentides. Je lâchais tout. Une famille que j'avais là-bas aussi, qui était mes amis. Donc, tout lâché. Je reviens ici. Donc, ouais, ça a été une drôle d'année au début. Ça a été super le fun, l'introduction. Quand le COVID est arrivé, là, je commençais juste à me sentir à l'aise, connaître un petit peu de gens. Puis, boum! Isolement et très strict dans les débuts. Donc, mais un été formidable par contre. Ouais. Ma blonde et moi, on a fait la Mingani, on a fait tellement de plein air, pointe des monts, on est allé tellement de fois, de l'apnée, tellement de fois aussi, du paddleboard avec les baleines. On a vu, je pense qu'on doit avoir vu une quarantaine de baleines cet été. Et dont certaines d'entre elles juste à 15-20 pieds de nous, dans une grosse baleine à bosse à 15 pieds de nous et sa grosse queue. Donc ça a été un été extraordinaire. Au point de vue social, ça, on y reviendra. Là.
Ah, ouais.
Ça a été plus difficile, effectivement.
Ouais. Ouais, donc vous avez replongé dans la découverte du territoire.
Oui, totalement. Exactement.
Super. Et donc tu nous as un peu parlé tout à l'heure. T'as eu autant une implication professionnelle pour la culture que personnelle aussi. Et finalement, t'as parlé d'art, t'as parlé culture. Par quoi tu te définis?
De plus en plus, je me définis comme soit un agent de développement et ou plus personnel, plus un médiateur culturel.
Médiateur culturel.
Ouais. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça, moi je viens de la socio et de l'anthropo. Donc pour moi, la culture a une vision très sociale, une vision très anthropologique de la chose. La culture, c'est ce que les gens font de manière ordinaire dans des lieux ordinaires. On va en Afrique, on parle de culture. On voit une différence, il y a des gestes, il y a des symboles, il y a des choses qui se passent différentes que nous et qui vont souder une communauté. C'est l'essence, c'est l'âme, c'est l'esprit d'un lieu, c'est l'esprit d'une communauté. T'sais. Donc moi, la culture, elle est là. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente. Chaque territoire a ses couleurs, a sa culture aussi. Et pour moi, j'ai toujours utilisé la culture de manière à créer des ponts entre des gens. Et surtout entre des clientèles, des publics, parce que je viens de l'intervention aussi, comme je disais tantôt avec l'intervention jeunesse. Donc, comment utiliser des moyens créatifs pour permettre à des gens de s'exprimer et découvrir d'autres réalités aussi. Il y a tellement de gens qui n'ont pas accès à parler, à s'exprimer, à avoir une voix, comme on disait tantôt. J'intervenais beaucoup auprès de jeunes marginalisés que, par les aléas de la vie, des défis, se retrouvent isolés, sans voix et tout ça, permettent une expression, en plus par l'art, par la photographie, par l'écriture, par un moyen ludique. Des gens vont se découvrir extraordinairement bons, vont pouvoir s'exprimer. Après ça, d'autres personnes, le citoyen moyen peut en plus voir qu'est-ce que ces jeunes-là font. Donc c'est très impuissant ça, parce que d'autres moyens d'intervention plus classiques n'arrivent pas souvent. Est-ce que le côté ludique des arts permet ça aussi? Donc moi, c'est vraiment la médiation. Pour moi, la culture permet la rencontre entre des imaginaires, entre des esprits, entre l'âme des personnes aussi, tu sais, sans être dans l'ésotérisme pété, mais de donner accès à des gens, en fait, une voix à des gens qui ne pensaient même pas avoir.
Ça concerne tout le monde, en fait, la culture?
Clairement, c'est ça, tu sais, c'est totalement, puis c'est là aussi, je pense, qu'est un des enjeux de la culture, c'est-à-dire, et moi, dans mon poste actuel, fais-moi pour décrire un peu plus qu'est-ce que je fais, moi, c'est agent de développement pédago-culturel, l'objectif, c'est d'intégrer davantage la culture nord-côtière dans les écoles, auprès des jeunes, sous toutes ses formes, qu'on parle d'ateliers, de visites, d'organismes, de projets plus d'envergure, dans l'objectif de développer le sentiment d'appartenance des jeunes à leur territoire. Et c'est là, quand que je rentre dans une école, je parle avec une direction, une enseignante, je m'amuse toujours à demander aux gens, c'est quoi pour vous la culture? Et on voit que pour la majorité des gens, c'est pas l'entièreté. La culture, c'est des images, comme un stage, des lumières, un chanteur. C'est Montréal, c'est le lointain, c'est le grandiose, et surtout, ce n'est pas nous. Il y a aussi une vision de la culture un peu hautaine. C'est comme si on était pédant, le monde, la culture. C'est le musée des beaux-arts. C'est pas moi, dans ma petite maison, avec peut-être mon moins d'éducation. Je sais pas, il y a vraiment cette vision-là, comme s'il y avait une fraction, une fracture. C'est ça, ouais. Malheureusement, il y a une perception de la culture, et qui, malheureusement, qui a été entretenue aussi par un certain passé plus aristocratique, entre parenthèses. Mais c'est avec des projets comme le mien actuellement qui s'inscrit dans un autre projet plus large qui est de la citoyenneté culturelle des jeunes. Donc de permettre une démocratisation de la culture et une démocratie culturelle. C'est-à-dire de permettre aux citoyens moyens, aux jeunes, de s'approprier les moyens de création et de devenir actifs socialement par la culture. Donc on parle vraiment de citoyenneté. C'est-à-dire au même titre que toutes les saines habitudes de vie, on parle de bien manger, bouger. On pense de plus en plus qu'avoir une pratique culturelle participe aux saines habitudes de vie aussi. Donc là, on parle moins de devenir le plus grand chanteur de l'humanité, mais juste avoir une propre pratique artistique, culturelle, d'expression. Donc,
Ça touche quoi comme domaine, la culture? Parce que ça a l'air d'être très large. Quand tu parles d'avoir une pratique culturelle, ça peut être n'importe quoi finalement, faire du dessin, faire de la musique...
Totalement, t'sais, c'est là qu'on voit qu'il y a une distinction à faire des fois entre art et culture, hein, qui est pas toujours nécessaire. Toutefois, moi j'ai toujours dit que la culture c'est le donné, hein, c'est le terreau sur lequel on est, c'est l'ensemble des pratiques, des visions du monde, des façons de sentir, des façons d'être que chaque communauté, chaque culture va avoir. L'artiste, lui, c'est un des professionnels du geste qui va venir exprimer et interpréter cette culture-là. Donc, l'artiste prend qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est toujours là, toujours donné, une culture donnée, et par une professionnalisation, mais lui, il y a un geste, il y a une parole, que ce soit en art visuel, en peinture, en musique, en sculpture, il vient donner une forme plastique, une forme quelconque pour exprimer une vision du monde.
Finalement, n'importe qui peut s'approprier la culture. Est-ce que la culture aura des bienfaits sur lui?
Moi, je crois beaucoup à la culture dans ces deux branches, donc une version plus thérapeutique, entre parenthèses, même si j'aime pas toujours le terme, mais se permettre de s'approprier sa propre histoire, de s'exprimer à travers ça, de prendre une voix, et de rencontrer l'autre aussi, de permettre de parler de l'autre. En fait, quand on parle de soi aussi, mais peut-être c'est une possibilité à l'autre de nous rencontrer. Si on écrit un texte sur notre village, l'exemple parfait pour moi, c'est toujours Fred Pellerin. Tu sais. Pour moi, Fred Pellerin a changé ma vie. Par des monologues qu'il a fait, par des spectacles qu'il a fait, tellement beau, il permet d'avoir une vision de la ruralité, du Québec rural, que pour moi a changé complètement ma perception du monde. C'est une parole tellement poétique. Donc, ouais, les bienfaits de la culture, c'est avoir accès à des dimensions de l'existence que d'autres façons ne donnent pas. T'sais, sinon, on va devenir toutes des rats de laboratoire, je sais pas trop, là, mais je pense que pour moi, la culture, c'est une intimité, c'est des émotions, c'est une capacité de se contacter soi-même, de toucher l'autre. Puis c'est là aussi d'ailleurs qu'au point de vue changement social, je crois que la culture a tout à gagner d'être présente. C'est que la raison ne permet pas, puis on le voit très bien avec les changements climatiques actuellement, on a bien beau donner tous les rapports, les données scientifiques, les données de chercheurs, les groupes de recherche sont là, donnés à l'appui très rationnellement, on voit que souvent ce n'est pas compris par une bonne partie de la population. Quand on implique l'art dans le changement social, là, on parle plus à la raison, on parle aux affects, aux émotions. Ça permet de toucher émotionnellement les personnes. T'sais. Et on le voit actuellement aussi avec tout le populisme aux États-Unis, avec Donald Trump et tout ça. Pourquoi ça fonctionne, le populisme? Parce que ça vient toucher les émotions. On dépasse la stricte raison classique, on vient toucher aux émotions. Et c'est là que la culture et les arts viennent aider, c'est-à-dire de, au lieu de rationaliser, d'expliquer, on vient montrer, on vient toucher la personne dans les émotions, et qui peut être très fort pour le changement social par la suite. Parce que là, on est convaincu dans nos tripes, on a été touché, on a été ému par quelque chose.
Quand moi je pense à homoculture, je pense aux cultures, je pense aux communautés, à la population, et je pense aussi à la culture autochtone.
Et effectivement, on a une planète à côté de nous qui s'appelle Pessamite. On a plein sur la côte nord aussi, dans chacun dans la communauté. Donc les arts et la culture est le véhicule privilégié pour se rencontrer, nécessairement. Parce que quand, et c'est là que quand j'accompagne des jeunes, des projets, bref, par le passé aussi, on dirait qu'on laisse tomber les armes quand on prend un moyen créatif. C'est que souvent, surtout quand on parle de problématiques, d'enjeux sociaux, de racisme systémique, de discrimination, d'image de la femme, ça peut être lourd pour plusieurs personnes aussi, confrontant. Et c'est pas tout le monde qui peut et qui a envie de rationaliser à ce point-là des problématiques. Quand on prend le véhicule des arts, la chanson, la musique, le dessin, nommez-les toutes, on dirait qu'il y a comme une lourdeur qui tombe, il y a un plaisir qui monte en plus. Il y a un sourire, puis il y a des émotions, puis il y a des cœurs qui battent aussi. Donc c'est là, je pense, qu'on peut vraiment changer les choses, se rencontrer et faire baisser beaucoup de murs. C'est quand on se sensibilise et quand c'est le fun. Puis quand on voit les émotions, c'est quand on les ressent. Il y a aussi actuellement un organisme merveilleux que j'ai la chance d'accompagner actuellement. Je vais le dire en français parce que j'ai toujours peur de mal dire leur nom. C'est les chasseurs de Pessamite. En Innu Pessiamoquantut, vous m'excuserez, ami Innu si je ne suis pas capable de le prononcer, organisme culturel qui spécialise dans la transmission de la culture Innu de Pessamite. Plein de projets avec les jeunes actuellement aussi qu'on est en train de travailler pour les écoles. Donc autant des activités de tannage, de peau, d'orignal, montage de pièges traditionnels en bois, des rencontres interculturelles aussi. Donc, il y a encore là, hein, c'est par les arts et la culture de permettre de s'amuser ensemble aussi. Puis c'est un truc qu'on oublie des fois quand on parle de changement social ou de racisme systémique. On dirait le mot amusement le fun et racisme systémique viennent pas ensemble. Moi, je crois qu'il faut les mettre ensemble. C'est-à-dire, c'est par en dépassant les armes quand on va être sensibles les uns aux autres, qu'on va pouvoir mieux se rencontrer.
Et tout à l'heure, tu nous parlais en fait des centres, des rencontres qui sont des centres culturels. On a tendance à souvent penser à Québec, Montréal, la culture est très présente. Finalement, c'est quoi nous l'enjeu de la culture en région?
Clairement, en fait, ça, je pense que c'est ça, c'est la perception de la culture que premièrement, et moi j'en suis le premier, quand j'étais jeune, si je veux réussir ma vie et avoir une vie active, je m'en vais d'ici. Clairement, donc c'est une rétention aussi des jeunes sur le territoire. Et aussi d'être capable de s'approprier les moyens de création, les moyens d'expression, pousser, continuer à pousser sur les versions. C'est une vision plus citoyenne de la culture pour empêcher, fait pour briser une fois pour toutes cette fracture-là entre une basse culture et une haute culture. On parlait de la culture d'élite tantôt. Effectivement, je pense qu'il faut pousser encore plus là, c'est-à-dire que la culture peut être accessible à tous. C'est pas tout le monde, par contre, qui peut devenir artiste. C'est pas tout le monde qui va devenir artiste professionnel, puis ça, c'est pas grave non plus. Toutefois, tout le monde peut s'approprier un moyen d'expression, peut devenir un citoyen culturel, même en région et même encore plus en région, je pense. Ici, sur la Côte-Nord, il y a tellement d'espace, il y a tellement d'inspiration. Et si même on parle juste au point de vue professionnel, on n'est pas beaucoup là, ici. Là. Donc, il y a de l'espace pour tout ça aussi, pour avoir une voix. Pour avoir vraiment un impact, il y a quelque chose ici qui se passe, c'est sûr et certain. Là.
Si on parle de lieux culturels, si demain, toi, il y a quelqu'un qui arrive, qui est passionné de la culture de manière générale, tu as envie de lui conseiller un endroit où aller à Baie-Comeau, qu'est-ce que tu lui conseilles?
Rue Champlain, et toute la rue Champlain, bien évidemment, avec toute la rue patrimoniale. Donc, et Parc des Pionniers, pourquoi? Mais c'est parce que c'est entre la ville et le fleuve, donc tout le fleuve, la grandeur. Et moi, j'aime beaucoup la baie Saint-Pancras. Après ça, tu sais, bien évidemment, je ferai pas tout ce qui est art et spectacle, l'ouvre-boîte culturelle, le centre des arts, sont des ruches à créativité là aussi. Donc, et la microbrasserie Saint-Pancras, bien évidemment aussi, là, juste par leur nom de bière, par leur bâtiment aussi tout en bois, donc qui propose vraiment une saveur très nord-côtière, même dans leur mobilier. Donc, ouais.
Est-ce que tu irais dire que la région, bah là on peut parler de Baie-Comeau, c'est encore un cas qui est encore plus concret. Est-ce que Baie-Comeau il est riche culturellement?
Clairement, ça fait moi ça que socio-anthropologue de moi-même, clairement, tout lieu est riche culturellement. Clairement, il y a des spécificités ici qu'on trouve en nulle part, c'est sûr et certain.
Comme lesquelles?
Mais si ce n'est que d'arriver au Parc des Pionniers et voir des usines partout autour, qu'on voit que les gens, si ce n'est que leur accent, tu sais, que moi j'ai perdu malheureusement 17 ans après, tu sais, de partout, tu sais, de ce mélange-là de terre et mer aussi, tu sais, c'est, on est autant des forestiers que qu'une culture de pêcheurs aussi. Du point de vue anthropologique, la culture ici est riche et riche et riche et méconnue totalement. Parce qu'on croit premièrement que ce n'est pas de la culture, hein, parce que la culture c'est les autres, c'est Montréal, c'est les musées souvent aussi. Mais la culture c'est qu'est-ce qu'on est, point. Donc après ça, est-ce qu'on peut l'exprimer?
Je vais te proposer une petite mise en situation. Si je te demande de fermer les yeux, puis ensemble, on va faire un saut dans le temps pour se réveiller en 2030. Tu sors de chez toi, t'ouvres les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens de ta région?
Moi, je sens encore plus de fierté d'être nord-côtier. Ouais, la fierté de venir dans quelque part, d'être sur la côte nord. Ouais, et que de plus en plus de gens l'expriment, le montrent, d'être nord-côtier encore plus fièrement, comme d'autres régions le sont, comme Gaspésien, comme Madelineau. Donc, voilà.
En an 2030, les citoyens autour de toi, tu le sens, ils ont cette fierté-là culturelle. Et finalement, pendant ces 10 ans-là, ça a été quoi le rôle de ces citoyens? Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement pour qu'on en arrive à aujourd'hui, cette fierté nord-côtière?
Plein de choses. C'est sûr que premièrement, mais s'approprier son territoire, hein, tu sais, autant au point de vue économique. Je crois beaucoup aussi, oui, tu sais, je viens de la culture, mais l'économie là aussi, bien évidemment. Donc, tu sais, de tout le démarrage de PME, de petites entreprises, revaloriser notre territoire par le terroir. On a tellement de choses ici, comme des entreprises, comme actuellement, comme les microbrasseries Saint-Pancras, la distillerie, le Vent du Nord, d'autres projets qui s'en viennent aussi, toute la valorisation des petits fruits, c'est notre nordicité. Donc, pour moi, c'est ça la culture aussi. Tu sais, c'est... Et aussi, moi, s'approprier son histoire, tu sais, d'être capable de dire je suis fier de venir d'ici. Et ça, je crois, c'est par plein de jeunes artistes, plein de jeunes citoyens qui peuvent s'exprimer aussi sur leur histoire à eux, soit écrire des livres, des expositions d'art visuel, des balados comme tu fais actuellement, parce que moi, c'est une forme de culture, qu'est-ce qu'on fait là? C'est un art, c'est l'art numérique, c'est oui, là, ça passe par un magnétophone, après ça, c'est la parole de nous deux, après ça, ça s'en va dans une radio, donc ça peut toucher des gens aussi, dire « Ah, mais moi, ça me tente, moi, d'être sur la Côte-Nord, d'être fier aussi. » Donc, juste parler de plus en plus de la Côte-Nord, de qui on est, puis c'est là, pour moi, s'approprier sa culture, puis être citoyen culturel, comme on disait tantôt, c'est se réapproprier notre créativité. On peut tout être créatif, tout dépendant du médium qu'on veut. Il va en avoir, que effectivement, c'est plus par une entreprise, créer une microbrasserie. C'est la créativité pure, c'est aussi d'autres, c'est plus dans la littérature. Il y a des artistes actuellement extraordinaires. Si on parle de Monique Durand à Sept-Îles, qui écrit sur le fleuve, qui écrit sur les villages, c'est touchant. Moi, c'est un de mes modèles littéraires. Si on parle de Chantal Harvey à Béjouane-Bitz en art visuel, c'est tellement touchant, c'est tellement beau. On permet de voir la Côte-Nord différente, d'en être fier. Donc, ouais, des actions qu'on peut voir, qu'on peut sentir que la Côte-Nord existe de plus en plus.
Est-ce qu'il y a des choses concrètes, si on vient en 2020, pour quelqu'un qui nous écoute, qui peut faire en se disant « Mais oui, ok, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire quelque chose. » Est-ce qu'il peut avoir des appuis quelque part? Comment il peut promouvoir ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a des outils? Est-ce qu'il y a des choses mises en place ici sur la Côte-Nord?
Clairement, mais oui.
Qu'est-ce qu'il y a?
Si ce n'est qu'avec Culture Côte-Nord, pour l'organisation que je travaille, on a toute une équipe pour accompagner justement les jeunes créateurs et les moins jeunes aussi. Vous pouvez avoir 90 ans, il n'y a aucun problème. Donc, toute personne qui désire, effectivement, se professionnaliser, avoir tous les outils pour créer, c'est quoi aussi devenir écrivain, c'est quoi devenir musicien. Il y a aussi tout l'accompagnement pour même des demandes d'aide financière et tout ça. On a une collègue sur ce dossier-là, donc on prête même du matériel audiovisuel aussi pour des jeunes créateurs, des jeunes créatrices qui désirent créer des choses. Donc Culture Côte-Nord est là pour ça, pour faire la promotion des arts et de la culture et la faire rayonner et permettre à des gens de devenir aussi des artistes et être créatifs de plus en plus. Là. Et surtout, c'est que ça n'a pas de limite. Et c'est là que, quand je rencontre des jeunes ou des moins jeunes aussi, souvent on va dire « Ah, moi, je suis pas artiste, je suis pas capable de créer. » Moi, je suis convaincu, c'est quand tu vas trouver ta bonne forme, le bon médium. Est-ce que toi, c'est une guitare, un crayon? C'est-tu un ordinateur? Est-ce que c'est une hache? Bref, il y a plein de façons de créer. Et pour quelles raisons aussi après? C'est-tu pour toi-même? C'est-tu pour ta communauté? Mais on peut tous être créatifs. Je pense juste qu'on n'a pas peut-être encore trouvé la forme, le médium qu'on maîtrise bien et qui nous fait vibrer. Parce que le but, c'est de vibrer aussi. Hein. C'est d'être touché, qu'est-ce qui est fort en dedans de nous, puis être capable de communiquer à l'autre de manière sensible.
C'est quoi, toi, ton médium de création?
Moi, c'est principalement musique et littérature, beaucoup. Mais j'ai toujours dit, moi, ça, en tant que médiateur culturel, moi, mon médium, c'est le social. C'est la transformation de la société qui m'intéresse. C'est une transformation pour se sensibiliser les uns aux autres. Je pense que c'est la clé pour moi. En ce moment, puis surtout la période des fêtes, c'est toujours pour les personnes âgées dans les CHSLD. Comment peut-on créer encore plus de projets, plus de façons de se rapprocher d'eux? Moi, je pars toujours d'une problématique, d'un enjeu social, pas ça pour créer un projet autour. T'sais. Puis le médium, par exemple, tantôt je parlais de la photographie, c'est par défaut que j'ai pris la photographie avec des jeunes, parce que les jeunes ont tous des cellulaires, donc prendre des photos, c'est facile. Mais l'objectif, c'était que les jeunes s'approprient leur histoire, t'sais, s'approprient qu'est-ce qu'ils sont et s'expriment sur la place publique. Moi, ma forme, c'est vraiment créer des contacts entre des gens. Je suis médiateur dans l'âme.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de faire leur part pour cet enjeu-là? Que ce soit des gens qui viennent d'ici ou qui viennent pas d'ici.
Exprimez-vous. Peu importe le médium, peu importe la forme que ça prend, et surtout s'enlever la pression d'être pas bon ou être bon, que ce soit beau ou laid. Pour moi, s'approprier sa culture, c'est s'approprier sa propre sensibilité. De découvrir une partie en dedans de soi qui veut s'exprimer. Et après ça, c'est trouver le bon geste. Comme je disais tantôt, pour moi, un artiste professionnel, c'est un professionnel d'un geste. Une parole, un mouvement, une écriture, bref. Donc, c'est se permettre d'être créatif, se lancer, tout simplement. Faire des concours d'écriture, tout ce qui passe. Ici, on a la chance d'avoir l'organisation Recréer la Côte, qui a des ouvertures de textes. Tout le monde peut soumettre un texte. C'est vous le temps d'exprimer, il y a ça, il y a plein d'autres formes aussi. Si ce n'est que écrire pour vous, pour votre famille, pour n'importe qui, prendre des photos, il y a tellement de façons de s'exprimer puis de s'approprier notre culture et de la montrer aussi. Donc c'est développer sa propre sensibilité à qui on est, qu'est-ce qui nous fait vibrer, nous, vraiment. Et enlever la pression de « est-ce que ça va être bon ou mauvais ?» Juste le faire, parce que ça fait du bien. Et après ça, on s'aperçoit que plein de gens autour disent « c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu fais? »
Est-ce que tu m'as parlé de plein d'initiatives, plein de projets que tu soutiens, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle? Est-ce que toi, tu vois les résultats de tout ça directement?
Oui, effectivement, l'impact est direct. Moi, je trouve que c'est par les arts et la culture que les impacts sont plus directs sur la personne et sur les communautés. Et tout ça, je pense que moi, ça a démarré quand j'avais... Je sortais de mon baccalauréat et avec une de mes ex-blondes, qu'elle avait une boulangerie. Le bâtiment était fait par l'ébéniste du coin, le fromage qui était de la fromagerie familiale aussi sur le même terrain. Les vaches étaient dans le champ. Tout était là, tout était présent. Puis moi, ça faisait des années que je cassais la tête à ma famille pour manger local, québécois, mais tu sais, très rationnel. T'sais. J'envoyais des documents, je sortais les statistiques. je faisais ça à table. Tu sais. Mais c'est quand que ma famille est venue nous visiter à la boulangerie de mon ex, qui ont rentré en dedans, qui ont vu le bâtiment trop joli, que ça sentait le pain, que tous les ingrédients étaient à 100 km autour, qui ont goûté, qui ont mangé, qu'on a bu de la bière, de la microbrasserie du coin, que mon frère a jasé avec un brasseur, qui est un fan d'Iron Maiden aussi, puis lui aussi. Donc toute la pression de l'élite, comme on disait tantôt, parce que pour eux c'était l'élite qui mangeait ça et tout ça, a tombé. Deux semaines après, mon frère me dit « Hey, je veux brasser de la bière avec toi. » Ma famille, maintenant, ils sont très sensibilisés face à ça. Mais c'est grâce à des expériences sensorielles, donc à des expériences culturelles. T'sais. Donc c'est vraiment le moment que ça m'a convaincu que essayer de convaincre les gens par des graphiques et des points sur la table et de la grosse rationalisation brute peut fonctionner. Toutefois, quand on fait vivre les choses aux gens, comme ce qu'on faisait vivre humblement dans la boulangerie, hein, juste viens manger du pain et un lunch, mais c'était tellement présent, c'était tellement là, que les gens sortaient de là avec le sourire dans la face, et c'est donc ben cool ici, wow, consommer local, c'est pas juste pour les élites finalement, t'sais. Donc, c'est ça qui m'a convaincu le plus, après ça, dans tous les projets que j'ai faits aussi par la suite. Toujours cet aspect-là émotionnel, faire vivre des choses aux gens.
Est-ce que tu aurais une ou plusieurs références à nous partager? Ça peut être film, émission, personnalité. Tu nous en as un peu parlé.
Ben oui, totalement, tellement de choses pour moi. Actuellement, moi, ça, je l'ai parlé quelques fois, Monique Durand, Saint-Laurent, mon amour. Un livre extraordinaire publié à Mémoire d'Encrier, qui est une maison d'édition encore plus extraordinaire. Un livre, des petites chroniques sur le Saint-Laurent, autant sur les personnes qui le peuplent autour que ses paysages, l'eau, autant sur la rive sud que sur la côte nord. Donc des choses plus historiques, mais toujours des choses très personnalisées, des individus. C'est très touchant, très poétique, donc il y a un accès au territoire grandiose là-dedans, c'est tellement beau. Chantal Harvey, qui me touche toujours et encore par ses créations. Allez voir ça sur Google Images, si ce n'est que ça, après ça sur son site web ou sa page Facebook.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs?
Soyez fiers de ce que vous êtes. Je vous invite à l'être, effectivement. Et soyez fiers de ce que les gens autour de vous sont aussi, le territoire sur lequel on vit, a tellement de richesses, tellement de choses, insoupçonnées souvent, mais quand on les découvre, si on développe juste notre sensibilité, notre regard, donc, être fier et pourquoi pas développer sa sensibilité à ce qu'on ressent dans nous, puis qu'est-ce que les autres sont aussi, puis s'exprimer à travers tout ça, oser s'exprimer. Ouais.
Merci Eric.
Un plaisir, ma chère, merci de l'invitation.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vos proches et amis. Merci à toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. À très bientôt !